Vous écoutez du Trizac. Cube Radio.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Mais bonjour.
Et on commence avec la police de Longueuil.
Ben oui, parce que ce matin, oui, c'est ça, on a l'ancienne mairesse qui est là, qui a sûrement des choses à dire là-dessus. C'est Geneviève Guilbeault, donc ce matin, qui a annoncé un 3,6 millions de subventions là, pour le service de police de l'agglomération de Longueuil pour une espèce de projet pilote, stage de 5 semaines pour des policiers qui vont être vraiment triés sur le volet, là, sans armes et uniformes. Hein? Il y a des gens qui voudraient qu'on définance la police puis qu'on désarme la police, ben on fait peut-être un test. Parfois je me dis ça en regardant cette annonce là ce matin. C'est une équipe qui va être appelée policier réseau et tout ça provient de la fameuse réflexion du comité consultatif sur la réalité policière là qui a été commandé justement par la ministre à la fin de 2019. Elle estime que ce type d'essai-là va permettre un rapprochement entre les policiers et les citoyens. Alors, on veut d'une certaine façon réprimer la répression, si tu me passes le jeu de mots. Puis là, ça va fonctionner comme une immersion permanente au sein de la population pour le policier. Et donc, on va éviter justement d'en venir trop vite à la répression. Puis pour les policiers, ça va être de comprendre mieux avant qu'il y ait des gestes épouvantables à réprimer ne surviennent. Donc, c'est une tentative.
Est-ce qu'il y en a eu tant que ça à Longueuil, Caroline? Est-ce qu'il y en a eu tant que ça?
Ben pas nécessairement. Je suis pas certaine que c'est la raison pour laquelle on a déterminé que c'était à Longueuil qu'on faisait le projet pilote. Je pense, et peut-être qu'Antoine a une meilleure réponse là, mais je pense que c'est beaucoup à cause ou grâce en fait à Fadi Daguerre qui a une approche, le directeur de la police de Longueuil que j'ai nommé dans mon temps. C'est vrai, mais je veux dire c'est pas juste moi,
c'est vrai, conseil
d'agglomération. C'est moi qui l'ai nommé. Ben oui, tout à fait.
Mais
il y a une approche, très très différente, très communautaire.
Pourquoi tu l'avais nommé, lui? Pourquoi tu l'avais choisi?
Parce qu'il était excellent. Premièrement, parce qu'il était excellent. Il y avait un parcours. Mais c'est pas juste moi, là. Il y a eu un comité de sélection. C'est l'ensemble des membres de l'agglomération. Là, je me l'attribue parce que ça paraît bien.
Ben oui.
Mais c'était quand même un processus très, très rigoureux. Il était à Montréal. Il était rendu à cette période-là de sa vie. Mais justement, il avait une approche très, moi, je trouvais moins, police rough. Puis on l'a vu au cours des dernières années, là, tous ces projets, il veut vraiment amener la police proche des citoyens et ça, c'était très, très en demande à Longueuil. Alors, je pense que, en tout cas, peut-être qu'Antoine a une réponse différente, là, mais je pense que c'est peut-être pour
c'est
ça qu'on a choisi Longueuil. Hey, je gagne-tu quelque chose?
Oui. Notre estime.
Ah, oui. Je l'avais déjà, non?
Alors, oui, mais elle est multipliée.
Ah, OK.
OK, mais tu m'as pas répondu quand même pourquoi...
Hein?
Pourquoi lui? Pourquoi Fadi Daguerre de tous les candidats possibles?
Ah, ben là, écoute, ça remonte quand même à quelques années, là, mais mon souvenir, premièrement, son CV, son parcours, et c'était recommandé par le comité de sélection, là, comme je te dis, là, mais écoute, je faudrait que je fouille, là, mais
okay.
C'était davantage la façon qu'il avait réussi les tests, son approche, puis il n'y en a pas tant que ça, là, à un moment donné, tu sais, quand t'es dans les meilleurs à Montréal, c'est déjà un exploit d'être bon à Montréal, dans la police, c'est une blague, il était rendu là. Et quand t'es dans les hauts niveaux, au niveau de la police de Montréal, pour devenir chef de police d'une force policière comme Longueuil, qui est quand même une grande agglomération, tu sais, ton bassin de candidats est assez limité quand même. Donc, c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs, c'est que les villes comme Longueuil, Laval, ou les grandes villes du Québec, ben, souvent vont fouiller dans les bassins comme de la police de Montréal,
là,
parce que c'est comme un processus normal.
Là. Bon, un autre plan pour les 15 à 29 ans, qu'est-ce qu'ils ont eux autres? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas?
Ben, ça a été dur, la pandémie, pour eux. Puis là, on décide au gouvernement Legault de dépenser des sous là, pour venir en aide aux jeunes. Et il y en a des politiques jeunesse, il y en a depuis longtemps. Puis il y a toutes sortes disons, d'aspects à cette politique-là. Il y a 5 axes. Il y a le gouvernement, le chef du gouvernement, le premier ministre, l'a présenté hier et lui a mis l'accent, entre autres, sur la langue française. Et il y a du travail à faire, a-t-il dit, pour que les jeunes comprennent la vulnérabilité de la langue française en Amérique du Nord. Mais ça va de ça au traitement de psychologie, là. Donc, parce qu'on sait que les jeunes ont beaucoup souffert de la COVID. Donc, c'est une espèce de plan. Moi, je vais recevoir Samuel Poulain, le député jeunes de la CAQ, qui était avec le premier ministre hier pour annoncer ça. Il a dit quelque chose qui m'a fait un peu sursauter. Notre génération, c'est celle qui a éveillé ses parents et ses grands-parents à l'importance des enjeux environnementaux. Ah ouais? Sauf dans les parcs.
Oui, c'est ça. Après
c'est ça que je voulais dire. Tout à l'heure, je le reçois, là, puis je vais y en parler.
Je trouve
que c'est un peu angélique, là, cette déclaration-là.
C'est
parce
prétentieux.
Les questions environnementales, moi, là, j'ai fait ma thèse de philosophie politique en 1992 à la maîtrise. Puis, déjà, on parlait des questions environnementales depuis 20, 30 ans.
Hey, le rapport sur le réchauffement climatique là, qui a été présenté au Congrès, c'était en 1988.
Ah oui.
Sur le réchauffement de la planète.
Tu te souviens du rapport Brundtland? Le rapport Brundtland sur le développement durable qui a mis en avant la notion de développement durable.
Ouais.
Ça fait longtemps. Le rapport du Club de Rome, 1970, on a célébré là, les 50 ans.
Samuel, t'es même pas au monde.
Ben oui.
En tout cas. Je vais en parler avec Samuel, mais il y a toutes sortes d'autres aspects à cette espèce de plan-là avec lequel on cherche à rejoindre le 500 000 jeunes Québécois.
Il réinvente une expression « avant moi le déluge ».
Ah, c'est bon. Ben oui.
Ça se peut pas. Ça se peut pas de pas connaître.
Non, avant moi la grande noirceur. Ben, c'est toujours avant. Ça.
Oui, c'est ça.
C'est la logique. C'est le truc de la grande noirceur. Avant moi, c'était épouvantable. Un jour, je suis arrivé.
J'ai réveillé mes parents au sens de l'écologie de la planète. Ta gueule, voyons donc. Prétentieux. Jonathan, ça, je l'ai lu ce matin. J'ai pas eu le temps d'en parler, là. C'est scandaleux. Jonathan Vance, Caroline.
Ah, écoute, je sais pas par où commencer. Non, mais c'est comme. Mais premièrement, expliquons, là, pour les gens qui auraient pas lu ça. Jonathan Vance, vous vous souvenez, celui qui était chef d'état-major des Forces armées canadiennes, qui est sous enquête pour inconduite sexuelle. Et il est démis de ses fonctions, mais là, on apprend qu'il aurait été joué au golf avec notamment un dénommé Mike Rouleau. Mike Rouleau, en fait, grosso modo, c'est lui qui peut donner des ordres à la police militaire, qui peut donner de grandes directives au niveau des enquêtes. Alors, ils sont allés jouer au golf ensemble. Il n'y a pas de problème d'éthique, il n'y a pas de problème du tout. C'est épouvantable, là, pour plein de raisons. Bon, premièrement, le grand prévôt, celui qui est en fait le grand patron de la police militaire, Simon Rouleau, s'est voulu rassurer en disant que non, il a pas reçu aucune directive de M. Rouleau, mais quand même avouer qu'il peut y avoir une apparence. Et est-ce que c'est quelque chose qui va rassurer notamment les femmes, parce qu'il y en a plus qu'une enquête? Est-ce que c'est le genre d'affaires qui rassure sur le fonctionnement des Forces armées canadiennes, sur l'indépendance? T'sais, même s'il n'y en a pas du tout de directive, est-ce qu'il n'y a pas déjà un doute? On a vu la déclaration de ton ami le ministre Adjan, qui est toujours très dynamique, un grand leader au Parlement canadien.
La bouche ouverte tout le temps.
Oui,
tout le temps
oui,
la bouche ouverte à ne pas savoir ce qui s'est passé.
Il s'est dit scandalisé,
ben,
mais c'est
oui.
tout. C'est tout. Il a dit qu'il allait faire quelques appels au niveau des forces armées. J'ai cherché des déclarations. Il me semble que ça aurait valu un petit gazouillis rassurant le monde. Je sais pas. Tu sais, je demande
non,
pas
de les convoquer.
Là.
De les convoquer.
Ben oui, je sais, Benoît. J'essayais de trouver une petite déclaration pour me rassurer, me réconforter, mais rien de tout ça. Vraiment, c'est odieux. Il y a une apparence, il y a un conflit d'intérêts potentiel. Je vois pas comment les forces armées peuvent continuer là, prétendre qu'il y a indépendance.
Mais là,
c'est leur affaire.
Michael Rouleau, là, de qui la police militaire relève directement.
C'est ça.
Est allé jouer au golf avec Jonathan Vance, qui était en charge de l'opération Honor, justement sur le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes, mm-hmm. qui, lui, est accusé d'avoir pogné le derrière de quelqu'un. Ils vont jouer au golf, au club de golf militaire privé. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ça, des clubs de golf militaire privé?
Oui.
D'où ça sort, ça? Un club de golf militaire privé.
Ben, c'est pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent.
Est-ce que c'est des fonds publics qui alimentent ça? Qui financent?
Je lisais ça ce matin. Un club de golf militaire privé. Tu vas jouer en uniforme? C'est quoi cette affaire-là? Ils ont-tu besoin d'un club de golf privé?
Si t'es fâché, tu sors le bazooka.
Oui, c'est ça, tu fais un nouveau trou.
C'est dangereux un petit peu.
Ça, c'est le 19e trou. Bang!
Le golf, il paraît que c'est un des sports les plus frustrants.
Ouais, c'est ça. Fait que Jonathan Vance, écoute, après ils vont nous dire que c'est pas un petit club privé de bonhomme blanc.
Il y a plein de questions. J'ai hâte de voir si ça va être soulevé aujourd'hui à la période de questions. Parce que, bon, le Parlement achève. Il reste quelques jours à peine au Parlement canadien pendant que l'Assemblée nationale, elle, est en vacances. Pas les parlementaires, mais l'Assemblée.
Ouais.
Et on verra si
on
va
recevoir des courriels et des textos. J'ai dit, tu vas recevoir des courriels et des textos si tu dis que les parlementaires sont en vacances.
Je sais, j'en ai eu un qui a travaillé à l'Assemblée nationale, qui était député. Mais ils sont pas en vacances. Mais c'est vrai qu'ils sont pas en vacances parce que la plupart des députés retournent dans leur comté.
Et le ministre de la Défense de dire ça à Jan, hein? On est en vacances? Hein? On travaillait? Hein?
On travaillait.
Il est toujours perdu. Il sait jamais quoi. Je l'ai vu en entrevue au réseau à CBC puis à CTV. C'était extraordinaire. Connaît rien, répond à rien, comprend rien, incapable de rien expliquer.
Et la bouche? De quelle manière la bouche?
Hein?
La bouche?
Quoi?
Sa bouche?
Ouverte.
Ouverte.
Bouche bée. Pablo Rodriguez, qui est le ministre à Ottawa,
oui,
le mieux coiffé.
Moi, je suis là pour parler de tous ceux que t'aimes à Ottawa.
Pablo
Rodriguez, on en a parlé ensemble la semaine passée. Il avait monté le ton un peu parce qu'il disait que c'est assez les conservateurs et leur obstruction. Ce matin, il a fait une conférence de presse avec Mme Freeland, la vice-première ministre et la ministre des Finances, en disant que ça n'a pas de bon sens, vraiment. Il ne reste pas grand temps. Et là, il veut avoir les 4 projets de loi, C-30, C-12, C-10, C-6, grosso modo.
Bingo!
C'est ça. Donc, tantôt, juste avant qu'on entre en onde, finalement, ils ont déposé un baillon pour faire adopter C-30. Et dans le fond, c'est un peu pour ça que je voulais vous en parler. Parce que c'est une chose de dire que les conservateurs font de l'obstruction. C'est comme si, vraiment, ils veulent mettre la table pour des élections. Monsieur Rodriguez a dit, non, on veut pas d'élections. Tout ce qu'on veut, c'est des projets de loi adoptés. Mais dans le fond, ils ont l'appui de différents partis pour approuver les projets de loi. Fait qu'ils ont juste à faire des baillons. De toute façon, ils en ont fait dans le passé et ils viennent d'en faire un aujourd'hui. S'ils veulent vraiment adopter les projets de loi, ils peuvent faire plein de baillons puis tout va être adopté. Alors, je comprends pas pourquoi ils se scandalisent comme ça, M. Rodriguez, si ce n'est que pour justifier éventuellement le fait qu'ils doivent aller en élection, parce que vraiment, c'était juste ça le point de presse.
Ah oui.
Les conservateurs nous empêchent de gouverner.
On a un extrait, nous, de Pablo Rodriguez qui est arrivé dans le stationnement de la Chambre des communes et sa place était prise. On l'écoute.
Il a pété. Monsieur le Président, leur « nous » vise à diviser, Monsieur le Président, sur la base linguistique. Le « nous » libéral inclut les francophones, les anglophones, des gens de partout dans le monde, Monsieur le Président, qui viennent au Québec, qui viennent au Canada pour travailler ensemble, bâtir le meilleur avenir pour un, le meilleur enfant. Chez nous, de ce côté de la Chambre, on ne divise pas,
oui, monsieur.
On unit, Monsieur le Président.
Oui, monsieur.
Hey, j'aurais peur de le croiser.
Mais il pourrait vendre des stars.
Il n'y a pas juste les cyclistes qui prennent de l'EPO. Hein.
C'est ça.
C'est vraiment de la grosse drogue, là.
Ça ressemble à ça à Ottawa. Merci, madame
Saint-Hilaire,
M. Robitaille. Oui. Merci à vous deux. À demain.
Au revoir.
Mm-hmm. Au revoir.